Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En matière de santé, certains chiffres sont en eux-mêmes porteurs d'une dimension éprouvante, reflètent l'angoisse associée presque instinctivement au sujet. Cela peut expliquer en partie, dans certaines régions du monde, l'absence de statistiques qui concernent des maladies ou des causes de décès jugées tabous. C'est le cas du suicide. Certains pays ne produisent en effet aucune donnée fiable sur celles et ceux qui intentionnellement décident d'en finir avec la vie. Les familles, elles-mêmes, peuvent dissimuler les causes du décès. Pourtant, les professionnels engagés dans la prévention ont besoin de ces données pour en appréhender les causes, l'impact, la nature même de ces suicides. Ainsi, l'Union nationale de prévention du suicide rappelle qu'il s'agit de la première cause de mortalité chez les 15-24 ans dans de nombreux pays en Europe, que pour tout suicide, 25 personnes feraient une tentative et que chaque suicide a un retentissement sur la vie de plusieurs dizaines de personnes. Prévenir le suicide, c'est donc en cerner les facteurs de risque, améliorer la prise en charge des personnes fragiles, instaurer un suivi, prendre en considération l'entourage et toujours, toujours lutter contre le tabou. Une prévention qui s'appuie sur de multiples leviers dont on parle aujourd'hui dans Priorité Santé. Et comme chaque jour, nous attendons vos témoignages, vos questions sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro, le 33 84 22 75 75, car la première chose, c'est d'en parler. Lutter contre le tabou du suicide, l'indifférence, l'isolement, on en parle donc avec nos invités en studio. Professeur Haruna Ouédraogo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou au Burkina et vous êtes professeur Ouédraogo, le président de la société burkinabé de santé mentale. Avec nous également Françoise Fassi, bonjour.
Bonjour.
Directrice honoraire de recherche à l'INSERM, docteur en mathématiques statistiques et vice-présidente de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie.
Priorité santé sur RFI.
Quand on parle du suicide, on parle de ces chiffres qui font mal, hein, de ces chiffres qui font peur. On va avoir l'occasion au cours de cette émission de revenir longuement sur la situation dans votre pays, professeur Haruna Ouédraogo, mais précisément professeur au Burkina. Est-ce que les suicides sont recensés? Est-ce qu'on a des chiffres?
Merci madame. Je dois dire que malheureusement nous n'avons pas en fait de données assez fiables et au plan national concernant le suicide. Donc dans les causes de décès, ce sont des aspects qui sont certainement noyés. Parce que dans les structures sanitaires, on récapitule en fait les décès, mais les causes précises en fait de ces décès ne sont pas toujours suffisamment bien documentées. Si bien que, ma foi, c'est une lacune. Et nous pensons aussi qu'avec le temps, on devrait pouvoir parfaire les systèmes de manière à pouvoir mieux renseigner sur les décès par suicide.
Alors bien sûr, il y a cette dimension de tabou, hein, on va en parler tout, au cours de toute cette émission. Mais est-ce que vous sentez déjà, professeur Ouédraogo, que quand vous êtes même avec des interlocuteurs, les autorités, des professionnels de santé, dans des petites structures, par exemple des infirmières, quand vous dites le mot suicide, comment les personnes réagissent-elles?
Ben c'est toujours un sujet tabou. Vous savez que quelqu'un qui se donne délibérément la mort suscite un certain nombre d'interrogatoires. Donc que ce soit de la part de l'entourage ou bien de ses collègues. Et donc on évite d'en parler. On ne veut pas en parler. Et le plus souvent aussi en parler, c'est peut-être aussi mettre en situation difficile peut-être l'entourage du suicidé. Et donc, ça demeure un sujet tabou.
Avec une dimension culturelle, Françoise Fassi, est-ce qu'on va dire que dans certaines régions du monde, on plaint la personne qui se suicide alors que dans d'autres, on va la condamner?
Tout à fait. Vous parliez justement des systèmes d'information. Il faut regarder ce qui se passe en France déjà. Depuis 1968, nous avons un registre des causes médicales de décès. C'est l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui gère ce registre, c'est-à-dire que les certificats de décès sont remplis par des médecins par rapport aux causes principales, aux causes associées de décès, et ce registre permet de donner régulièrement des données et surtout leur évolution. Nous avons eu des pics, nous avons des baisses en ce moment, notamment depuis les années 2000. C'est très très important. L'INSERM travaille d'ailleurs en coopération internationale avec les centres collaborateurs OMS et j'ai moi-même participé à des travaux avec des pays d'Afrique où on voit bien que l'absence de registre, l'absence de ces données régulières, eh bien, ne permet pas des observations fiables et surtout ne permet pas de mobiliser les professionnels de santé, comme le professeur Hugo l'a bien indiqué, et de mobiliser une société civile.
Ça veut dire déjà que les autorités se voilent la face. En ne voulant pas voir la réalité en face, ça veut dire qu'on n'est pas prêt non plus à mettre plus tard des moyens efficace pour la prévention.
Tout à fait. Je crois que c'est très très important pour nos sociétés d'avoir des bases de données qui soient fiables, des bases de données qui puissent respecter, bien évidemment, le caractère individuel des personnes, respecter l'intimité des familles, mais nous avons besoin, ce sont des données qui sont anonymisées. Mais c'est très très important que des chercheurs puissent travailler avec des cliniciens pour qu'on améliore aussi les actions de prévention, pour qu'on améliore les interventions et qu'on puisse rassurer, parce que on a mis des années à faire reconnaître que le suicide relève de la santé publique. Vous parliez du Québec, madame, tout à l'heure, et je crois que là aussi, nous avons des pays qui donnent un exemple extrêmement important de respect, évidemment, de l'anonymat des personnes, mais aussi de données épidémiologiques qui permettent de comprendre ce qui se passe.
Parce qu'il y a des chiffres qui sont parlants, professeur Haruna Ouédraogo, quand on dit pour un suicide 25 tentatives, ça veut dire que ces 25 personnes, eh ben, il y a moyen de les aider. Beaucoup de suicidants, on va dire, des personnes, je déteste le terme de réussite ou quoi que ce soit, mais qui vont au bout de leur projet de mort. Beaucoup de personnes, heureusement, échouent, c'est le meilleur des échecs. Et dans ces cas-là, il y a toujours moyen, professeur Ouédraogo, de leur tendre la main. La solution, c'est pas de regarder ailleurs.
Absolument. Il faut surtout mettre l'accent en matière de suicide sur la prévention. Notamment à l'endroit de ceux qui ont effectivement commis des tentatives de suicide. Et plus ces tentatives de suicide vont se répéter, plus le risque, un jour que la mort survienne, est quand même important. Donc, il faut pouvoir cibler ces personnes-là qui sont à risque et donc pouvoir leur offrir une prise en charge qui soit aussi de qualité et qui puisse aussi prendre le temps nécessaire en fonction bien sûr des motivations de la personne, en fonction aussi des problématiques psychologiques qui peuvent être décelées à travers, n'est-ce pas, l'examen, et puis en fonction aussi d'un certain nombre de contextes, de facteurs culturels ambiants qui peuvent aussi être prises en compte dans la perspective, justement, d'aider cette personne à sortir de ce désespoir et à pouvoir aussi entreprendre une vie sereine.
Professeur Haruna Ouédraogo, oui, est-ce que vous avez été confronté en consultation, par exemple, à des cas de personnes qui avaient fait des tentatives et qui, de ce fait, se sont retrouvées exclues de la famille, exclues de la communauté ?
Alors c'est beaucoup plus subtil que l'exclusion. Vous saviez que derrière cet acte, il y a un message. Et en fonction, n'est-ce pas, de la nature de ce message et de la façon dont l'entourage va percevoir ce message, effectivement, il peut y avoir des velléités un peu aussi de marginalisation, de stigmatisation de la personne qui a en fait tenté l'acte. Et surtout, quand il n'y a pas de prise en charge qui prenne en compte justement l'entourage de la personne. Le risque existe, oui.
Et tout à l'heure, vous citiez Françoise Fassi, l'Organisation mondiale de la santé, qui bien sûr travaille sur cette question, sur la prévention, et qui dit, hein, l'OMS, deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Pourquoi cette très grande vulnérabilité des jeunes face au suicide ?
Alors, il faut quand même bien se rendre compte que, en général, quand on est jeune, on est rarement malade.
On est en bonne santé, donc on meurt moins, on va dire.
On meurt beaucoup moins. Donc, la place relative des morts violentes, que ce soit les accidents ou les suicides, eh bien, cette place relative va être d'autant plus importante. Mais il faut quand même se rendre compte qu'en France, par exemple, ce sont les 45-64 ans qui sont les plus nombreux. Dans
c'est la différence entre la quantité et la proportion.
Tout à fait. Et de la même façon, vous allez considérer les personnes âgées, la part relative des suicides va être très très faible, même pas 2%, alors que
les causes majeures de mortalité, c'est bien évidemment la maladie. Si on reste justement sur ce cas précis de la France, Françoise Fassi, en termes de suicide, vous disiez tout à l'heure, pour l'instant, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est en régression. On peut l'expliquer ?
Oui, tout à fait. Et je crois que quand on regarde quelques études d'évaluation, là encore une fois, recherche, évaluation des actions, c'est un domaine extrêmement important pour lesquels il faut accorder de l'attention, il faut accorder des moyens. Et on peut dire que les évaluations positives mettent en lien les actions de prévention. Quand il y a eu des plans, et notamment les plans autour de 2014, on a pu voir avec l'école de Rennes en santé publique, eh bien, que les régions qui avaient enregistré les baisses les plus significatives étaient aussi celles où il y avait eu des politiques intégratives, on pourra dire, de prévention, qui allient à la fois les prises en charge, comme le disait le professeur, prise en charge de personnes qui sont dans un processus de risque suicidaire, et puis en même temps, prévention collective, et notamment le milieu scolaire, les milieux communautaires, des collectivités qui, à un moment donné, se mobilisent.
En parler dans la vie de tous les jours avant que ça n'arrive, professeur Haruna Ouedraogo, psychiatre, ce sont les psychiatres qui prennent en charge en général, hein, même si vous l'avez dit tout à l'heure, à tous les niveaux des structures de santé, c'est important d'en parler quand on a un problème. Professeur Ouedraogo, les personnes qui viennent en consultation pour une dépression, est-ce que beaucoup d'entre elles, est-ce qu'elles sont nombreuses à dire « oui, j'ai des idées noires, oui, j'ai des idées suicidaires » ?
Alors, dans le cas de la dépression, l'un des problèmes majeurs, c'est justement ce risque suicidaire, et qui doit être repéré par tout praticien en présence donc d'un patient qui est déprimé. Alors, ce risque peut être plus ou moins important, peut être plus ou moins clairement verbalisé, et dans tous les cas, il faut rechercher ce risque suicidaire-là et faire en sorte que le patient puisse parler des problèmes, en fait, qui peuvent éventuellement aussi l'amener, en fait, à ces idées, à ces risques-là. Et donc, il y a une démarche qui doit permettre, justement, en présence d'un patient déprimé, de pouvoir non seulement repérer ces risques-là, mais également aussi de mener des actions spécifiques de prise en charge pour aider, en fait, cette personne-là à sortir de cette situation.
La déprime, la dépression, quand c'est une maladie, et d'autres pathologies psychiatriques augmentent de façon très importante, hein, le risque de suicide, schizophrénie, bipolarité, dans les pays occidentaux, troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose de très important. Prendre en charge meilleure psychiatrie pour aussi meilleure prévention du suicide.
Absolument. Et à cette liste, il faut aussi ajouter l'abus d'alcool et de substances psychoactives, qui constituent aussi, en fait, des facteurs de risque assez importants, parce que, bon, souvent associés aussi à des actes suicidaires. Donc, il faut pouvoir, dans le cadre donc de la prévention, assurer aussi des prises en charge correctes de ces pathologies-là. Parce qu'on sait que ce sont aussi des situations qui peuvent exposer le sujet à un risque accru de suicide ou de tentative de suicide.
Alors on parle justement, Françoise Fassi, je me tourne vers la statisticienne, de ces fameux facteurs de risque. La maladie, on l'a compris, les addictions, les conduites addictives, l'âge, le genre, hein, plus élevé chez les hommes en France, mais ça dépend des pays, c'est culturel.
Bon, en règle générale, on a une surmortalité masculine par suicide et on a une par contre surexposition pour les femmes au risque de tentative de suicide. On met beaucoup en cause les modes de suicide qui sont utilisés, mais on peut dire aussi que l'environnement, les modes culturels peuvent aussi tellement différencier les genres que on va observer des comportements qui vont être beaucoup plus masculins ou beaucoup plus féminins par rapport au risque d'autolyse.
Et il y a aussi des moments où il va y avoir des périodes de grande vulnérabilité, on va dire bien sûr, des traumatismes, le deuil, la séparation, oui, la maladie.
Oui, vous avez également les antécédents, et dans les antécédents qu'on va retrouver beaucoup plus fréquemment chez les femmes, antécédents de violence intrafamiliale et de violence sexuelle. Je crois que là aussi, une attention doit pouvoir être portée. Vous parlez des facteurs de risque, les épidémiologistes également travaillent sur les facteurs de protection, donc je pense qu'on va y revenir aussi. Nous ne sommes pas que dans la santé négative.
Avec justement l'impact pour les personnes qui décident d'en arriver jusque-là, et puis pour l'entourage. C'est quelque chose de très important, professeur Ouédraogo. Comment ça se passe dans la prise en charge? Justement, comment fait-on pour toucher l'entourage, d'autant plus quand on est dans une situation où le suicide est un tabou?
Alors, le plus souvent, c'est un geste qui surprend, qui scandalise l'entourage, qui ne comprend absolument rien. Et en Afrique, nous n'avons pas en fait les traditions où les gens laissent un mot pour expliquer en
leur
fait
geste.
Le geste. Et donc, c'est comme si le sujet partait avec son secret. Et c'est cela aussi qui crée la difficulté, puisque dans ces conditions-là, l'entourage ne va pas signaler en fait un décès par suicide. C'est une mort assez mystérieuse et personne ne voudra en parler. Dans les cas de certaines personnes en ville, il arrive que les personnes de l'entourage puissent, face donc à ce deuil incompréhensible, demander une aide, parce que c'est aussi un drame pour l'entourage, en fait, cette mort assez violente.
Et justement, quand elle demande une aide, c'est sous quelle forme? C'est dire expliquez-moi, voire même, est-ce qu'il arrive que certaines personnes qui soient venues dans votre service en consultation, eh bien, la famille la prenne, et après un passage à l'acte, elles viennent vous demander, expliquez-moi pourquoi il allait si mal? Le secret médical, normalement, vous indique de ne rien dire, mais est-ce que des personnes sont en quête d'explications?
Absolument. Parce qu'on veut toujours comprendre ce qui s'est passé dans la tête de la personne du suicidé. On veut toujours ramener peut-être les problèmes à ce qui peut être de l'ordre de la responsabilité de l'entourage, pour pouvoir mieux comprendre. Et donc, c'est cela aussi qui interroge et qui fait souffrance. Puisque si l'entourage ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu provoquer la mort, il y a une sorte de culpabilité forcément qui va résulter de cette situation-là. Et donc, ça fait souffrance et c'est cela aussi qui peut amener parfois aussi à consulter. Alors, quand il s'agit de personnes qui n'est pas connue, qui n'est pas médicalement suivie, vous comprenez parfois que c'est difficile, en fait, de reconstituer, en fait, de refaire ce qu'on appelle une autopsie psychologique, parce que parfois l'entourage lui-même ignore beaucoup de choses donc de cette personne. Mais il arrive des cas où on parvient en fait à repérer quel est le problème, quel est le facteur précipitant qui a pu en fait déclencher donc ce geste fatal.
Est-ce que vous diriez qu'une partie de votre travail dans ce cas-là, c'est de déculpabiliser l'entourage?
Il faut absolument déculpabiliser l'entourage, parce que il y a dans certaines situations que le désir de mort est tellement fort que le sujet ne voit pas d'autre alternative. Et donc, l'entourage n'aurait pu absolument rien faire.
Parce qu'on a l'impression, dans certains cas, hein, j'ai eu des récits familiaux, chacun se donnait la propre raison du geste de la personne qui était partie. Chacun disait, c'est de ma faute s'il a fait ça. Et puis en parlant, tout le monde s'est rendu compte que chacun se pensait responsable et cherchait une responsabilité. Cette responsabilité, on peut dire aussi, elle est ailleurs.
Ah oui, là, il faut absolument déculpabiliser la famille. Vous savez, quand il s'agit en fait de récidive, de tentative de suicide, on peut comprendre qu'on aurait pu, on aurait dû. Mais quand c'est un premier geste qui est fatal, qu'est-ce que l'entourage pouvait très bien faire? Absolument rien.
Alors, Journée mondiale de prévention, Françoise Fassi, quels sont les axes de stratégie? Tout à l'heure, vous avez dit, les choses vont mieux en France, même si on est encore très très loin des objectifs, bien évidemment. Tant qu'une personne mettra fin à son séjour, c'est que la prévention n'aura pas finalement réussi. Mais qu'est-ce que c'est justement ces axes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les pouvoirs publics engagent comme action pour limiter le nombre des suicides?
Alors, je dirais que compte tenu de l'expérience que nous avons depuis les années 2000 avec deux plans nationaux où on a articulé un certain nombre d'actions, là aujourd'hui il y a comme une forme de simplification, mais sur les grandes orientations, c'est-à-dire mieux prendre en charge les tentatives de suicide à l'hôpital avec un système de recontact de ces personnes pour ne pas les laisser retourner à l'isolement, améliorer les formations et notamment les formations de médecins généralistes, les formations de toutes ces professions de santé dont on a parlé, et puis sensibiliser le grand public comme aujourd'hui la gare Saint-Lazare où il va y avoir le village avec une douzaine d'associations qui font de l'écoute, qui font de l'accueil et qui font du relais soit à distance, soit en face à face pour améliorer cette communication au niveau du grand public, des familles. Donc on a des grands axes nationaux et ensuite en France, les relais sont pris avec les agences régionales de santé qui, elles, vont utiliser ces grands axes issus des résultats positifs de ces dernières années, mais vont pouvoir décliner en fonction des territoires. Je m'investis encore en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas la même chose d'être en Cantal, d'être dans le Rhône, d'être dans la Drôme-Ardèche, etc. Et donc là, en fonction des moyens existants, en fonction des ressources locales et notamment associatives, les agences régionales de santé vont décliner et vont renforcer un certain nombre de moyens.
Alors au-delà de ces stratégies, on reparlera tout à l'heure, on va donner la parole aux auditeurs et aux auditrices de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Stratégie globale et parcours singulier. Un auditeur en ligne avec nous du Bénin, de Cotonou, c'est Martin. Bonjour Martin. Martin, vous êtes
bonjour,
avec nous?
Oui. Madame la journaliste, bonjour les auditeurs de RFI.
Et le professeur Haruna Ouédraogo est à votre écoute, allez-y.
Et bonjour monsieur le docteur.
Bonjour.
Allez-y, on vous écoute Martin.
Merci. Et il y a ce sujet de suicide là qui me tient vraiment à cœur. Sinon, depuis 2014, je me dis encore seulement si parfois il y a des problèmes de grande valeur là, je suis me dis en tête de me suicider pour me reposer. Sinon, je me dis que ceux qui sont déjà morts je repose paisiblement là-bas, alors pourquoi moi je vais rester ici en train de raconter des difficultés. Des difficultés de façon financière, des difficultés dans le foyer, aussi dans l'emploi. Et cette difficulté me pousse à me dire de nécessité pour l'histoire de se reposer au-delà.
Martin, je vais reformuler un petit peu hein, ce que vous venez de dire pour qu'on vous me corrigez si je me trompe, c'est très important. Ce que vous nous dites, c'est que en fait, de toutes les épreuves de votre vie, les épreuves financières, l'emploi, la vie familiale, vous êtes très très fatigué de tout cela, et vous pensez que bah, finalement, les personnes qui sont mortes, elles se reposent et que vous voudriez vous aussi vous reposer de tout ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous nous dites?
Voilà, tout à fait, madame, tout à fait. Ce que vous avez bien reformulé ma phrase, vous avez bien reformulé ma préoccupation et ma pensée. Et oui.
Ça veut dire, Martin, que par exemple, quand vous vous reposez le soir, quand vous dormez la nuit, vous ne trouvez pas le repos?
Ah, franchement, hein, madame, je ne peux pas, le docteur, je ne peux pas vous mentir, il n'y a pas le temps de dormir. Au moins, selon les études, ou bien ce qu'on nous a dit à l'école, l'homme doit se reposer au moins 8 heures dans une journée. Pendant les 24 heures, l'homme doit se reposer pendant 8 heures tout au moins.
Mais on ne vous a pas dit qu'il valait mieux faire une pause dans tout ça, justement, vous reposer pour ne plus arriver à cet épuisement qui vous rend si mal, qui vous rend si triste?
Pardon?
Est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter un petit peu pour vous reposer, justement, pour retrouver des forces?
Non, lorsque nous allons au lit, lorsque nous, c'est à 23 heures qu'on va au lit pour dormir, est-ce qu'on se réveille déjà à 5 heures pour le petit job qu'on fait, on ne peut pas se reposer comme ça. Même dans la journée, il y a des va-et-vient, il y a trop de problèmes, on se réveille, on se lance aussi dans les problèmes-là.
Professeur Haruna Ouédraogo, ce qu'on entend, c'est que Martin est complètement à bout. Hein. Il est sous l'eau, comme on dit trivialement, écrasé par les responsabilités, écrasé par les problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je remercie Monsieur Martin. Nous entendons parfaitement ce qu'il nous dit et nous comprenons également la souffrance. La douleur, en fait, qu'il vit. En pareille situation, il est important de se dire deux choses. Premièrement, que cette souffrance-là peut trouver une solution. C'est important qu'il puisse y avoir une foi. Que, la science est en mesure aussi de l'aider. Deux, que lui-même, en tant qu'individu, il a un certain nombre aussi de ressources capables de l'aider, en fait, à surmonter ses difficultés, qu'il a un certain nombre aussi de compétences dans la vie, qu'il a une expérience qui, en fait, dont le fait qu'il travaille et qu'il a fondé aussi une famille, je crois. Et donc, tout cela aussi ne doit pas être... je dirais négligé. Et ensuite, c'est important aussi de savoir que il a avec lui une famille, il a des parents, et la solution de partir ne constituera pas pour justement cet entourage-là une solution. Donc, il ne faut pas qu'il perde espoir, il faut qu'il puisse très rapidement aller consulter un psychiatre et parler avec le psychiatre.
Mais justement,
il trouvera les voies et moyens pour l'aider.
Quand Martin dit, parce qu'on a préparé avec lui cet entretien avant l'émission, quand il dit « je n'ai pas vu de psychiatre, je n'ai pas les moyens », quand on est dans une telle détresse et que finalement consulter un psychiatre, eh bien ça demande de l'argent, ça demande des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, je dois dire que il n'est pas le seul dans ce genre de situation. Il faut comprendre aussi que dans nos pays, même si il y a un coût à la santé, il y a quand même des situations exceptionnelles où le médecin peut comprendre.
Où l'humanité l'emporte.
Absolument. Et donc, dans nos structures sanitaires, il y a un certain nombre aussi de dispositions qui permettent aussi d'assurer une prise en charge, un minimum en tout cas, à des personnes qui sont démunies, qui ne peuvent pas payer, en fait, les frais liés aux consultations, les frais liés, en fait, aux différents actes médicaux. Donc, il faut toujours essayer, et je suis sûr, je connais bien les confrères qui sont au Bénin, ils trouveront une oreille attentive et ils trouveront de l'aide.
Martin, Martin, se reposer, comme vous disiez, vous avez besoin de repos. Se reposer, c'est pour mieux se réveiller. Vous avez envie de vous réveiller, mais il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous aider à vous réveiller. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a la formation pour le faire. Hein. Le professeur Ouédraogo le disait, la science peut vous aider. Il peut y avoir des traitements pour un temps, pour vous aider à aller mieux, pour chasser tout ce poids qui est sur vous et qui est trop lourd. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ce poids, il est bien là. Mais il y a la médecine qui peut vous aider à le sentir moins lourd. Est-ce que vous auriez le courage justement d'aller voir un médecin, d'aller en parler à quelqu'un? Vous avez eu un grand courage aujourd'hui de nous en parler. C'est un pas énorme. Est-ce que vous auriez justement l'envie de le faire?
Non, madame, j'ai l'envie de le faire. Mais ce que le docteur dit par rapport au Béninois, que nous avons les moyens, il n'y a pas. D'ailleurs, je ne suis pas. C'est maintenant que je suis en train de informer qu'il y a des pareilles choses au Bénin. Sinon, c'est une question de moyens. Il n'y a pas. Je ne suis pas même informé qu'il y a des bonnes volontés dans le pays qui peuvent nous aider.
Est-ce que vous avez déjà fait la démarche d'aller à l'hôpital pour essayer ou pas?
Pas du tout, parce que je veux dire que c'est une question de moyens, que je n'ai pas le moyen, ce n'est pas la peine d'aller.
Ce que vous dit le professeur Ouédraogo, c'est que ça vaut la peine d'y aller. Il faut faire la démarche. Parce qu'il y a aussi votre famille qui compte sur vous, c'est très important.
Oui, même les parents disent, ma maman, mon papa aussi dit.
C'est ce que disent vos parents aussi, Martin, qu'il faut y aller?
Quand je suis triste, ils m'interrogent seulement comment je ne réponds pas à leurs inquiétudes.
C'est difficile d'en parler dans la famille. C'est pour ça, justement, que l'écoute d'un médecin, ça peut être très important et ça pourrait vraiment vous aider. On vous souhaite bon courage, Martin. On essaye d'entrer en relation avec les auditeurs de Priorité Santé. Pour l'instant, c'est très, très difficile. Je vais donc vous lire un autre témoignage, le témoignage de Richard, qui s'est entretenu avec l'équipe de Priorité Santé tout à l'heure avec Juliette Brault. Il lui a confié quelques bribes de son histoire. C'est difficile de raconter en quelques instants. Il vit lui aussi des moments difficiles. Richard est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a fini ses études depuis 4 ans. Il a 30 ans aujourd'hui. Il est enseignant. D'après lui, ça ne marche pas comme il le souhaiterait. L'évolution est très lente et il a des idées sombres. Il trouve que ça ne vaut pas le coup de continuer. Surtout, ce qu'il dit, encore une fois, c'est qu'il n'a pas consulté de médecin et qu'il n'a pas envie d'embêter sa famille avec tout ça. Il n'a pas envie de faire peser le poids de son histoire sur son frère, par exemple, qu'il a déjà beaucoup aidé pendant ses études. Et il pense qu'il représente un embarras pour la famille. Il se dit découragé et c'est un véritable cri qu'il nous lance, puisqu'il dit « Comment me renforcer pour tenir ?» On entend souvent justement les personnes qui sont en détresse dire « Je veux pas embêter ma famille avec ces histoires, professeur Ouédraogo. »
Alors, c'est justement ce qu'il faut pas avoir comme attitude. Il faut absolument en parler, c'est un. Deux, il faut absolument consulter. C'est important qu'il puisse voir un psychiatre, qu'il ait la possibilité aussi de parler avec ce psychiatre-là de ses difficultés, de ses souffrances et également aussi de ses perspectives. Donc, la solution pour Richard, c'est d'aller voir un psychiatre. Je pense que, à la lumière de ce que vous venez de dire, il nécessite une prise en charge très rapidement et pour pouvoir lui permettre justement de continuer son activité professionnelle, de continuer aussi de mener une vie de famille aussi assez décente.
Et justement, quand il dit « je veux pas embêter ma famille avec tout ça », peut-être qu'il faut qu'il cherche dans son entourage la personne qui aura l'oreille, qui aura l'écoute pour entendre, parce que finalement, les personnes de sa famille, si un jour il lui arrive quelque chose de tragique, s'il met un mauvais projet à exécution, ils seront encore plus choqués. Ils diront pourquoi il m'en a pas parlé.
Justement, c'est souvent en fait des idées fausses qu'on a dans cet état pathologique. La famille ne se trouverait nullement embêtée parce qu'il exprime en fait une douleur, parce qu'il va pas bien. Donc le fait de parler à ses parents ne constituerait pas fait un problème particulier. Bien au contraire, c'est comme vous le dites, s'il n'en parle pas et que, ma foi, ça se complique, je pense que la famille pourrait aussi culpabiliser.
La famille, c'est ça, c'est la confiance.
Absolument.
Et aussi, les personnes de la famille ont besoin qu'on leur fasse confiance quand il y a des problèmes et quand il n'y a pas de problème, dans les deux cas.
Donc, il faut en parler.
il faut en parler. Justement, cette dimension de tabou, est-ce que cette dimension, on la retrouve également, professeur Ouédraogo, parmi les soignants? Parce que là, on est autour de cette table avec des personnes qui sont de bonne volonté, qui ont travaillé sur le suicide. Mais est-ce que ça peut arriver qu'on arrive dans des structures de soins, quelqu'un arrive, dit « je suis très déprimé hein, », d'ailleurs... pas forcément qu'au Burkina, hein, partout dans le monde, ça va très mal et que les gens disent « Allez, courage, ça va passer ».
Il ne faut pas banaliser. Quelle que soit en fait la motivation, quel que soit l'état du patient, il ne faut jamais banaliser en fait des idées suicidaires énoncées au cours d'un entretien. Et le simple fait que la personne et exprimer cette idée-là doit nécessiter une attention particulière et éventuellement voir la possibilité donc de confier l'intéressé à un psychiatre pour une évaluation beaucoup plus globale et éventuellement aussi une prise en charge.
On va poursuivre notre échange dans Priorité Santé, hein. Journée mondiale de prévention du suicide. Tout de suite, une petite pause musicale avec Burna Boy.
Charge my energy, I don't get time for no enemy. To reap what they told me. Nothing with person ever see, I'm on nothing with person ever see. Forget it, I say fashi. Money soon expected. Check out what body I jump. I take out to the person. Jelly, je. I've been the answer, then yes, sir. Now I'm here, then the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though una know say I'm special. Anybody, we no want to surgery. Anybody, we no take carry body. I can't something, I can't something. Go back to fele, fele, I can't something. You want your bed, you never function. I because myself, I never talk. I look you, they laugh you gone, 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 gone. I shall no say the time go come, mama, I no say the time go come. Money you no go fit the line, oh ma. Oh mama, life not on Python. Whether you like or not, go by ginger me, you best get it. Respect is reciprocal, even though una know say I'm special. Anybody, we no want to surgery. Anybody, we no take carry body. Nah, I can't something, nah, I can't something. Go back.
Anybody, Burna Boy sur RFI, notre émission Priorité Santé. Travaillons ensemble pour la prévention du suicide. C'est le slogan de cette journée mondiale. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Françoise Fassi, vice-présidente de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, avec des associations qui ont un rôle particulier à jouer justement pour cette prévention. Et ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qu'on a bien vu avec notre auditeur Martin, c'est de connaître les ressources. À qui parler, à qui s'adresser, et ces ressources, elles sont multiples, Françoise Fassi.
Bien sûr, on a beaucoup parlé déjà des ressources qui existent à l'hôpital, des ressources qui existent au niveau de la psychiatrie, et on a déjà abordé aussi les ressources qui existent au niveau des associations. Nous avons des associations dans le réseau de l'Union nationale pour la prévention du suicide, des associations diverses qui vont particulièrement s'intéresser à des groupes de population vulnérables. Ça peut être les adolescents, ça peut être les personnes âgées, ça peut être aussi des groupes vulnérables comme le refuge avec les problématiques d'orientation sexuelle. Ça peut être également un certain nombre d'associations qui luttent contre l'isolement social, dont on sait que c'est un facteur de risque majeur, de risque suicidaire.
Françoise Fassi, excusez-moi de vous interrompre, on remarque toujours quand on s'arrête sur ces chiffres que certaines professions sont particulièrement exposées. Comment on l'explique ?
Alors, c'est particulièrement le milieu des agriculteurs.
En France,
et,
oui.
En France, et c'est une donnée qui était extrêmement pérenne, entre guillemets, très stable depuis toutes les analyses statistiques que nous pouvons faire. Et cette exposition au risque suicidaire des agriculteurs va être expliquée par des causes multiples. Ça peut être l'âge, le vieillissement d'un certain nombre de personnes qui, voyant l'inactivité arriver, la retraite, le vivent très très mal. Ça peut être également les difficultés financières et bien évidemment l'accès aux moyens létaux qui sont beaucoup plus facilités que pour d'autres catégories professionnelles.
Parce qu'il y a une donnée absolument qui est inconnue, c'est que dans le monde, c'est l'OMS qui l'explique, le moyen numéro un dans le monde, ce sont les pesticides. Les personnes s'empoisonnent, notamment en Inde. Il y a une quantitativement, c'est normal vu la population indienne, mais c'est le moyen numéro un mondial, c'est les personnes qui ingèrent des pesticides. C'est une donnée qui n'est pas très connue et qui montre que vraiment en fonction des régions du monde, les modes opératoires sont différents. Et justement, en matière de prévention, il y a toute une interrogation sur les modes opératoires. Faut-il en parler ? Ne faut-il pas en parler ? Est-ce qu'on est là encore dans le tabou ou est-ce qu'on est dans la prévention ?
Pour moi, nous sommes maintenant dans la prévention. Quand je regarde toutes nos associations, SOS Amitié, par exemple, eh bien, le discours est quand même beaucoup plus facile. Et en France, le moyen principalement utilisé pour les suicides accomplis reste la pendaison. Et on revoit bien les modes utilisés par les agriculteurs. En France également, nous avons les armes à feu, les armes de façon générale. C'est différent des États-Unis, par exemple, où les modes les plus violents sont beaucoup plus utilisés. Mais là aussi, il faut en parler. Vous parliez des pesticides. Moi, j'ajouterais aussi les médicaments. Nous avons des pharmacies familiales qui regorgent de médicaments. Là aussi, c'est de la prévention, c'est de l'éducation. Et j'ajouterais, il faut y aller sur la prévention avec l'éducation ciblée des femmes. C'est encore les mamans qui gèrent bien souvent les armoires à pharmacie. Apprenons à ne pas utiliser, à ne pas se refiler, entre guillemets, le médicament qui a bien marché pour un tel ou un tel.
Non. Ça veut dire que quand on a terminé d'utiliser un médicament aussi, on le rapporte à la pharmacie, on ne le garde pas sous la main et ça fait autant de risques enlevés de la maison. Professeur Ouédraogo, sur ces modes opératoires, c'est quelque chose dont on parle au Burkina ou c'est quelque chose de tabou ?
Alors, sur les modes opératoires, on a quand même quelques données concernant les tentatives de suicide qui ont été reçues dans les formations sanitaires. Chez nous, c'est aussi les pesticides, parce que c'est beaucoup utilisé en campagne, mais également les hydrocarbures et des médicaments comme les antipaludéens, parce que c'est aussi un pays où il y a le paludisme à l'état de mots épidémique. Donc, il y a une facilité d'accès à ces moyens-là, que ce soit en ville ou en campagne, qu'on retrouve donc dans le cas des tentatives de suicide. Maintenant, en ce qui concerne les cas de suicide, le plus souvent, ce sont des moyens violents, effectivement, comme les pendaisons.
Tout à l'heure, professeur Ouédraogo, on disait à un auditeur aller voir un psychiatre. On le sait bien, dans la plupart des pays africains, ces spécialités, la psychiatrie, tout ce qui est santé mentale, c'est réservé aux grandes villes, voire aux capitales. Alors, quand on est en milieu rural, qu'est-ce qu'on fait quand on est, on va dire, il y a une expression au 36e dessous, on va très mal, on se sent dépressif, on va mal. On va voir qui ? On va voir l'infirmière du centre de santé ou on va au dispensaire ?
Dans la plupart des villages, il y a des centres de santé qui sont donc tenus par des infirmiers, qui ont quand même reçu un minimum de formation qui leur permettent de repérer justement ces idéations suicidaires là, et qui peuvent aussi à certains moments donnés diagnostiquer peut-être un problème, qui peuvent, en fonction, n'est-ce pas, de la nature du problème, soit le gérer sur place, soit référer le patient à un échelon supérieur. De sorte à ce que, si c'est nécessaire, donc cette personne-là puisse être mise en contact avec un spécialiste.
Est-ce que justement, professeur Ouédraogo, vous êtes président de la Société Burkinabé de Santé Mentale, il y a des actions précises de formation conduite auprès de ces agents de santé?
Alors, c'est d'abord les formations de base en ce qui concerne la plupart des agents, que ce soit les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers qui font en fait une spécialisation en santé mentale, mais surtout aussi des médecins et également des psychologues cliniciens. Donc, au-delà en fait de cette formation de base, il y a une nécessité, une fois sur le terrain aussi, de renforcer les capacités à travers justement des actions de formation continue en fonction bien sûr des profils épidémiologiques qu'on va rencontrer, et surtout aussi renforcer les capacités de ceux qui sont dans les services d'urgence, parce que c'est là où on reçoit les personnes qui ont fait des tentatives de suicide, afin qu'ils aient le bon geste, à défaut qu'on évite en fait aussi de banaliser pour que demain ça ne se termine par un suicide.
Françoise Fassi, l'entourage, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes de l'entourage, justement, puisque la récidive, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans les comportements? Est-ce qu'il y a des attitudes qui doivent retenir l'attention de l'entourage pour dire « Oh là, attention, peut-être qu'il va falloir que j'agisse ».
Alors, comme a dit déjà le professeur, je crois que surtout ne pas faire semblant de rien voir. Et là aussi, je crois que l'entourage, même s'il a peur, même s'il sent, je dirais, dans l'incapacité d'aider, d'intervenir, je crois que déjà... observer, et puis surtout aller chercher aussi de l'aide, ne pas rester tout seul.
Parce que tout à l'heure vous disiez SOS Amitié, ces lignes d'écoute, c'est pas simplement pour les personnes qui ont des idées sombres, ça peut aider aussi l'entourage.
Mais bien sûr, et on voit bien, vous parliez de la NPA, là aussi on a en France un secteur médico-social où les professionnels sont médecins, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, et c'est bien évidemment, je dirais, ce type de structure médico-sociale auquel l'entourage peut s'adresser. Et je dirais qu'il y a un mot aussi. C'est pas parce qu'on fait partie d'un entourage et qu'on aime beaucoup une personne qui se révèle en difficulté qu'on peut être seul à l'aider. Là aussi, le risque de toute puissance, il faut faire très attention, c'est aller chercher aussi, comme dans le milieu professionnel, aller chercher des alliés. Travaillons ensemble.
Et justement, j'ai un témoignage pour terminer, le temps nous manque, mais je vais le dire quand même. Ma mère, c'est Nadie Lovi qui nous a écrit, ma mère a tenté de se suicider en 2014 après la mort de mon petit frère. Je n'ai jamais pu lui en vouloir. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est moi qui suis devenue comme une sœur. Elle se confie beaucoup à moi. Elle pleure avec moi. C'est très lourd à porter. C'est une responsabilité immense, mais je pense sincèrement qu'elle ne le refera plus. L'écoute, en parler, et puis ouvrir son cœur. Hein, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas une honte. C'est quelque chose qui peut arriver, d'avoir mal, d'être triste. En parler pour se faire aider. On vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, professeur Haruna Ouédraogo, chef de service de psychiatrie à Ouagadougou, et à vous, Françoise Fassi, directrice honoraire de recherche à l'INSERM. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la réalise, la fabrique, c'est tout. Samaki, Ophélie, La Seine, Didier Bleu, Juliette Brault et aujourd'hui Laurence Nau. Demain dans Priorité Santé, on va parler du diabète. Vos questions sur cette maladie chronique, prévention, diagnostic, prise en charge. On attend vos messages sur la page Facebook de l'émission, toutes vos questions, vos témoignages, et vous pouvez bien sûr nous joindre au 33 84 22 75 75. À demain, et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.